They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家正忙。
Hollywood star Capron Kilo बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, Mossy, Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Perret Legras et mise en ondes ce matin par Thibaut Germèze. Cette semaine, nous allons consacrer nos émissions à l'action humanitaire, de la dépendance humanitaire et des limites de l'assistance, à la lutte contre les épidémies, en passant par la figure du travailleur humanitaire. Pour commencer ce matin, on va s'intéresser à l'aide humanitaire face aux situations de guerre, malheureusement nombreuses, de Madaya à Taez, acheminer l'aide.
Notre situation est très difficile. Nos enfants meurent de faim, nos corps tremblent. Nous n'avons pas de nourriture, même du pain. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage.
Le monde entier reste silencieux. Que pouvons-nous faire? Nos enfants meurent dans nos bras. La communauté internationale doit réagir.
Bachar el-Assad utilise la nourriture comme une arme depuis 3 ans. Quand il n'arrive pas à conquérir par la force les zones contrôlées par l'opposition, il utilise tous les moyens qu'il peut.
La première impression fait mal au cœur. Nous avons vu beaucoup de gens dans les rues. Certains étaient souriants et nous faisaient signe de la main, mais beaucoup étaient trop faibles et avaient des expressions fatiguées.
L'information concernant la situation humanitaire à Madaya est basée sur de fausses informations. Le gouvernement syrien n'a pas arrêté les convois d'aide humanitaire, au contraire. Nous avons envoyé des tas de convois et nous avons demandé à l'ONU d'en envoyer plus. Mais plus vous en envoyez, plus les terroristes, car ce sont des terroristes, pensez-vous que ce sont des anges ? Plus ils confisquent l'aide humanitaire et l'utilisent au détriment de la population syrienne.
Voilà le porte-parole du régime syrien, niant qu'il fait obstacle à l'arrivée de l'aide humanitaire, accusant les groupes armés de la détourner à son propre profit, aux dépens des populations à qui elle est destinée. Finalement, la semaine dernière, et pour la première fois depuis 3 mois, un convoi humanitaire des Nations Unies a pu rentrer dans Madaya. 44 camions remplis de médicaments et de nourriture, un soulagement pour ces enfants, ces femmes et ces hommes faméliques de cette bourgade proche de la frontière libanaise qui subit le siège de l'armée syrienne et du Hezbollah depuis des mois. Alors que Madaya était parfaitement inconnue de l'opinion publique il y a encore quelques semaines, depuis le début du mois de janvier, cette petite ville du sud-ouest de la Syrie sort de l'ombre et révèle au monde la famine que lui fait subir le régime syrien. Pourtant, l'ONU savait depuis octobre dernier que la population souffrait de malnutrition, mais elle a préféré ne pas divulguer cette information. Madaya est devenue le symbole de l'exaspération des humanitaires syriens à l'égard des Nations Unies. Le 30 janvier dernier, une centaine d'entre eux ont dénoncé cette attitude. Ceux dont les proches meurent de malnutrition ou de manque de soins médicaux les plus élémentaires n'oublieront jamais le personnel de l'ONU qui, logé dans les hôtels de luxe à quelques encablures de là, pouvait entendre les explosions de ses fenêtres. Dans cette lettre ouverte, reprise par l'ONG syrienne The Syrian Campaign, ils accusent les envoyés de l'ONU d'être trop proches du régime de Damas et de courir après les autorisations dont on n'a même pas besoin. En effet, les résolutions du Conseil de sécurité exigent que l'aide humanitaire puisse être acheminée librement. Alors comment en est-on arrivé là? Quelle responsabilité pour le régime de Bachar, mais aussi pour les Nations Unies et peut-être pour les ONG internationales? On retrouvera notamment Fadi Al-Dairi, le fondateur de l'ONG End in End for Syria, une des rares ONG à opérer au sein du pays. Et puis au-delà du cas syrien, on va s'interroger sur les difficultés et les limites de l'action humanitaire, en particulier dans des situations de guerre. En mai prochain, Istanbul accueillera le premier sommet humanitaire mondial. Dans cette perspective, un groupe d'experts des Nations Unies a présenté un rapport récemment intitulé « Too important to fail », trop important pour échouer, dans lequel il appelle les ONG à plus de transparence, à améliorer leur efficacité et à cesser de se disputer les ressources. On va discuter évidemment de cette difficile mais nécessaire réforme de l'action humanitaire. Nos invités ici en plateau, d'abord Marc Laverne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes géopolitique, politologue, un spécialiste du Soudan notamment, on en a parlé plusieurs fois ici à ce même micro. À vos côtés, Mégo Terzian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président, vous, de Médecins Sans Frontières. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va évoquer bien sûr la Syrie dans un instant, mais d'abord l'actualité, Mégo Terzian. Vendredi dernier, 5 personnes dans un ambulancier de Médecins Sans Frontières ont été tuées, 35 blessés dans les frappes de la coalition sous commandement saoudien dans le nord du Yémen. Il y a quelques semaines, MSF déclarait que ces avions de la coalition avaient visé l'un de ses hôpitaux dans la province de Saada, tuant au moins 4 personnes là aussi. Fin 2015, MSF avait déjà accusé la coalition menée, rappelons-le, par l'Arabie Saoudite depuis mars 2015 contre la rébellion Houthi d'avoir bombardé l'une de ses installations à Taez, dans le sud-ouest du pays, faisant là 9 blessés, dont 2 membres d'MSF déjà. Est-ce que MSF ne va pas être obligé de quitter le Yémen pour protéger son personnel ?
Pour le moment, non. Il y a des débats qui sont en cours au sein de l'association pour savoir si on doit maintenir des équipes ou pas. Pour le moment, on a décidé de maintenir. Mais par contre, dans certaines zones, on va s'abstenir, notamment au nord du pays.
Des zones où vous étiez présent jusque-là ?
Oui, on travaillait sur 3 zones dans le nord du pays, dans le gouvernorat de Saada. Par exemple, Haïdan. Et on était obligé à arrêter les activités, faute d'insécurité.
Comment se passait au Yémen la coopération avec les différents acteurs, avec les autorités locales ? Est-ce que vous avez des liens, et lesquels, avec les Saoudiens ? Est-ce qu'il existe une forme de coopération dans laquelle on échange des informations sur les activités que les uns et les autres mènent ?
On a des liens avec tout le monde, avec les groupes radicaux, avec les rebelles houthites et aussi avec la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Les coordonnées GPS de nos structures de santé sont données aux Saoudiens notamment. Mais malheureusement, 3 fois, nos structures avaient été bombardées, à savoir que 132 structures de santé avaient été bombardées, partiellement ou entièrement détruites. Et souvent, c'est malheureusement la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui est derrière ces frappes.
Vous leur avez demandé des comptes ?
Oui, mais on est faible par rapport aux acteurs gouvernementaux. Même s'il y a des droits humanitaires internationaux, on sait que aussi les règles sont avec l'effort. Donc malheureusement, malgré nos plaintes, nos demandes d'enquête, etc., il n'y a pas d'action. Seule action, c'est encore une fois une frappe, donc vendredi dernier, sur une ambulance conduite par un chauffeur MSF.
Marc Lavenne, sur cette situation au Yémen, avant de passer à la Syrie, réaction ?
Je crois qu'effectivement, c'est une situation qui a été connue ailleurs. La différence, c'est tant que cette fois-ci, le coupable, si on peut dire, c'est l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire un pays puissant. On peut avoir des moyens de pression sur le gouvernement soudanais, par exemple, au Darfour, dans une certaine mesure. On peut avoir, dans d'autres cas, effectivement, des moyens de pression sur des pouvoirs en Afrique ou ailleurs, mais toujours dans une certaine mesure. Et là, non, dans la mesure où les Saoudiens ont réussi à réunir autour d'eux une grande coalition et qu'ils ont l'impression de se battre, non pas tant d'ailleurs contre les houthistes, mais contre les Yéménites, le Yémen d'une manière générale, et ça renvoie à des données historiques, à des données, je dirais, culturelles aussi, hein, et à la peur de cette république qu'est le Yémen aujourd'hui, depuis les années 60, face à cette monarchie qui est, ou qui se sent en danger vital, je dirais.
Alors on a tous été frappés, bien sûr, Marc Lavenne, par ces images de cette ville de Madaya, cette ville assiégée, affamée. En fait, quand on regarde les choses de très près, on se rend compte que l'acheminement de l'aide dont je parlais, elle s'est faite de façon synchronisée avec celle qui était en cours à Foua et à Kefraya, c'est-à-dire 2 villages qui sont favorables au régime, qui sont assiégés, eux, par la coalition islamiste de l'armée de la conquête. En réalité, on se rend bien compte que l'aide humanitaire, elle est devenue une arme politique pour les uns et pour les autres, des deux côtés d'ailleurs.
Oui, c'est devenu une stratégie militaire. Encercler des populations, les affamer, malheureusement, c'est devenu une stratégie militaire du régime de Bachar el-Assad.
Et vous comprenez la colère des humanitaires syriens. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a choisi de taire la situation, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, 13 janvier, 112 humanitaires écrivent cette lettre à Stephen O'Brien, le directeur des affaires humanitaires et coordinateur donc des secours d'urgence, dans laquelle ils accusent assez directement l'ONU qui serait devenue le symbole de la complicité après avoir été le symbole de l'espoir.
En tout cas, ils sont pour moi complices parce qu'ils acceptent une quinzaine d'enclaves aujourd'hui en Syrie sans aide humanitaire. Ils tolèrent le régime autoritaire du Bachar el-Assad. Pour moi, pas que l'ONU, en général, le monde humanitaire est en échec et n'est pas à la hauteur de la crise syrienne depuis au moins 2 ans.
Marc Lavenne. Vous abondez dans ce sens.
Il semble effectivement que l'ONU, il ne faut pas se tromper sur ce qu'est l'ONU. C'est un syndicat des États du monde dont les deux tiers à peu près sont des dictatures ou des régimes autoritaires. Et pour obtenir une mise en route d'une action onusienne, il faut qu'il y ait une unanimité au sein du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la mesure où la Russie et la Chine défendent le régime de Bachar al-Assad, le régime gouvernemental. Donc il y a souvent une confusion en parlant d'organisation humanitaire à propos du programme alimentaire mondial, de l'UNICEF, du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce ne sont pas des organisations humanitaires, à mon sens, dans la mesure où ce sont des organisations qui fonctionnent sur injonction du Conseil de sécurité, du Comité des sanctions, du Comité des droits de l'homme, qui sont des émanations politiques. Donc ce sont des organisations politiques avant tout. Et en l'occurrence, il y a un autre aspect qui est la bureaucratie onusienne, cette lourde machine qui fonctionne en interne beaucoup plus que pour rendre des services à l'extérieur. Hein, il y a cette dimension-là aussi qui compte. C'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires qui font leur carrière à l'ONU et qui ne vont pas prendre d'initiative, qui pourraient mettre en péril, ou alors c'est extrêmement rare et ça se paye très cher, mettre en péril le fonctionnement routinier, on va dire, de l'organisation.
On est quand même frappé de voir le nombre d'accords qui a été obtenu pour envoyer des convois. On dit qu'un dixième seulement des demandes sont arrivées. C'est-à-dire qu'il y a 13 convois sur 91 demandes qui ont pu être envoyées. C'est, j'allais dire, dérisoire.
Oui, c'est un échec de l'action humanitaire en Syrie et depuis au moins 2 ans. Donc c'est pas récent. C'est pas récent que des camions ne traversent pas les lignes du front. C'est pas récent.
Alors qu'ils en ont l'autorisation.
Ils ont l'autorisation, mais sur le terrain, la réalité est autre. Il y a des barrages, des petits commandants qui font la loi et acheminer de l'aide humanitaire aujourd'hui.
Vous parlez des petits commandants de l'armée syrienne.
De l'armée syrienne.
Dans le nord
du pays, c'est des groupes radicaux qui contrôlent et l'aide acheminée est détournée systématiquement par ces groupes. Bref, c'est le chaos et les populations syriennes qui subissent les conséquences.
Pour comprendre aussi cet échec, il faut peut-être un tout petit peu rentrer justement dans cette fameuse mécanique onusienne. Alors moi, j'ai appris tout ça en préparant cette émission, parce que visiblement, il y aurait des tensions internes quant aux méthodes retenues par l'OCHA, s'agissant des critères utilisés pour déterminer quelle ville est assiégée et quelle autre est simplement difficile d'accès. Or, évidemment, c'est une nuance très importante, parce que le siège, c'est considéré comme un crime de guerre par les Nations Unies.
Oui, selon nos informations, 15 zones sont assiégés, notamment banlieue de Damas et Homs. Les groupes rebelles, eux aussi, assiègent des villages comme Kafraya et Foua, probablement aussi Al-Zahra, un autre village dans le gouvernement d'Alep. Il y a des quartiers à des résorts qui sont assiégés aussi par le groupe État islamique. Donc, les deux côtés ne respectent pas, pour moi, les règles humanitaires internationales, ça c'est clair.
Marc Lavergne.
Oui, on peut même dire qu'à Alep, qui est la deuxième ville du pays, même s'il y a du ravitaillement humanitaire qui arrive, ça ne suffit pas à nourrir la population. Ça lui permet de rester en vie, mais guère plus. Alors je crois que ce qui manque en Syrie, c'est des casques bleus. Et encore, on a vu d'autres cas où il y avait des casques bleus, comme en Yougoslavie, Srebrenica, ou bien au Rwanda.
Oui, ça n'empêche pas toujours les massacres.
Pas les massacres. Hein. Ça n'empêche pas. Il faudrait des casques bleus qui soient déterminés avec leurs officiers à effectivement faire respecter ces résolutions du Conseil de sécurité ou bien de toute instance onusienne.
Mégo Terzian, il vous est arrivé, vous, d'être en lien avec des responsables de l'opposition et peut-être même des responsables de Daesh pour justement organiser l'aide sur place ?
Oui, on a tenté depuis le début de ce conflit de dialoguer avec le régime pour avoir l'accès officiel dans le pays sans succès. Donc le régime laïque a rejeté tout dialogue avec Médecins Sans Frontières. On a dialogué également avec tous les groupes rebelles, inclus...
Y compris Daesh ?
Oui, inclus le groupe État islamique. Moi-même, je suis arabophone, donc j'étais en dialogue direct avec certains commandants à Al-Bab ou à Kabassin ou ailleurs dans le gouvernement d'Alep.
Et sur quoi, justement, vous
on a
tentiez de dialoguer ?
Nous, on voulait obtenir notre espace humanitaire pour acheminer de l'aide aux populations exclues. Les deux premières années, donc 2012-2013, les promesses données par le groupe État islamique et les autres groupes radicaux avaient été respectées. Mais malheureusement, le 2 janvier 2014, on a eu un kidnapping de 5 collègues dans le gouvernorat de Latakié. Kidnapping donc commis par le groupe État islamique. Donc en gros, tous leurs discours et leurs promesses que notre sécurité va être respectée n'avaient pas été tenues.
Pour quelles raisons, vous croyez ?
Pour des raisons, pour moi, qui restent obscur. Donc là, il y a eu la résolution de kidnapping quelques mois après donc l'enlèvement. Moi-même, j'ai dialogué avec les commandants et j'ai voulu des explications de leur hiérarchie à Raqqa.
Ils vous en ont donné ?
Non, ils nous ont pas donné ni des explications ni des garanties écrites par la hiérarchie.
Dans quelle mesure vous pensez, Miguel Terzian, que l'État islamique est parvenu peut-être à détourner une partie de l'aide humanitaire ?
Selon les informations rapportées par les collègues et médecins syriens, l'aide acheminée dans les zones contrôlées par le groupe État islamique à Raqqa, Deir Zor et dans certaines zones à Alep est détournée. Les ONG syriennes qui arrivent... ils imposent aux ONG syriennes quelqu'un de chez eux qui commande l'aide doit être acheminée à quelle population. Souvent aussi, les entrepôts sont entièrement pillés par les combattants.
Marc Laverne, une réaction avant justement d'entendre un humanitaire syrien sur place.
Il y a différentes sortes de détournements. Il y a le détournement qui consiste à prendre et à vendre pour acheter des armes, par exemple. Et puis il y a le détournement qui était évoqué par Miguel Terzian, qui est de donner à certaines populations privilégiées par rapport à d'autres en fonction de critères politiques qu'il peut y avoir, de s'assurer la fidélité, la loyauté de certains groupes au détriment d'autres.
Alors les humanitaires se font de plus en plus rares en Syrie pour des raisons de sécurité évidemment, mais à cause aussi des réticences du régime de Damas pour fournir les autorisations. On en parlait à l'instant. Les humanitaires, ils sont souvent perçus comme des éléments perturbateurs, voire carrément comme des soutiens à l'opposition. Fadi Al-Dahiri, c'est l'un des fondateurs de l'ONG End in Hand for Syria, syrien longtemps installé en Grande-Bretagne. Il a abandonné une situation confortable pour se dédier tout entier à l'assistance humanitaire dans son pays natal. Il navigue désormais entre Gaziantep, à la frontière turco-syrienne où se trouvent ses bureaux, Amman, Londres, et puis sur le terrain, évidemment, plus près des populations. C'est une petite ONG constituée uniquement de Syriens, fondée au début de la crise en mars 2011. Elle fournit des produits de première nécessité, assistance médicale, formation de personnel médical aussi dans des hôpitaux qu'elle a construits. Elle projette de se lancer aussi dans l'aide au développement pour voir plus loin que la réponse à l'urgence humanitaire. Mais ce, officiellement, uniquement en zone rebelle, pour des raisons là aussi d'autorisation, car c'est comme ça qu'End in Hand for Syria travaille pour et avec les Syriens. On le retrouve donc, Fadi Al-Dahiri, il est au micro de Clément Salazar.
Nous nous appuyons sur les populations locales sur le terrain. Nous employons des gens sur place, des habitants des villes et des villages que nous ciblons. Nous réalisons également des évaluations, un suivi. Bref, nous appliquons les procédures habituelles, comme n'importe quelle organisation internationale établie et reconnue. Ce qui nous aide, c'est aussi que nous sommes tous syriens au sein de l'organisation. Ce qui se passe en fait, c'est que nous travaillons dans des régions contrôlées par l'opposition, dans le nord de la Syrie. Il y a bien des autorités, c'est vrai. Il y a par exemple le directorat de la santé intérimaire, c'est la direction locale ou bien les conseils locaux. Nous les informons simplement de notre projet, ils connaissent notre organisation, c'est tout. Il n'y a évidemment aucune négociation, ni besoin d'autorisation. Nous n'intervenons pas dans les zones contrôlées par des groupes terroristes. Là, nous les informons simplement de nos projets par politesse. Et surtout, nous travaillons en coordination avec d'autres ONG dans la région. Nous évitons ainsi les doublons. Lorsque nous parlons aux conseils locaux et les informons de nos projets, ils savent par exemple qu'une distribution de nourriture est prévue dans la région. Dans ce cas, ils vont informer les éventuels acteurs qui pensaient effectuer une distribution et leur conseiller de ne pas le faire sur place, afin de ne pas faire les choses en double, mais plutôt d'aller ailleurs. Il s'agit donc plus de travailler en coordination que de demander la permission.
Donc vous ne travaillez pas du tout dans les zones sous contrôle gouvernemental.
Si, nous le pouvons, mais nous agissons en toute discrétion, voire en secret. Quelle en est la raison ? Eh bien, nous ne voulons pas risquer la vie de nos collaborateurs. Dans les régions contrôlées par le gouvernement, par le régime syrien, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes automatiquement contre eux. Et le fait pour nous de travailler dans le nord de la Syrie fait que nous sommes immédiatement stigmatisés et catalogués comme soutien de l'opposition syrienne, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des humanitaires qui essaient de faire leur travail. Par ailleurs, les organisations internationales sont, elles, enregistrées à Damas et elles fournissent leur aide et la distribuent depuis Damas. L'armée syrienne se charge de distribuer l'aide en leur nom, en fait, et ces organisations internationales travaillent aussi dans le nord de la Syrie, mais elles n'en font pas publiquement état, afin que le régime ne l'apprenne pas et ne leur interdise pas de travailler à Damas. Mais nous, nous n'avons pas ce problème-là parce que nous ne travaillons pas officiellement à Damas. Et donc oui, nous y sommes présents, mais de façon extrêmement discrète. Et vous savez, le conflit affecte directement nos bénévoles, notre personnel. L'escalade à laquelle on a récemment assisté avec les bombardements tous azimuts, essentiellement, comme vous le savez, de la part de la Russie, tout cela a affecté non seulement notre équipe, mais également notre planning. Et par le passé, nous prévoyions par exemple de distribuer de l'aide dans certaines régions, mais à cause des attaques indiscriminées, nous sommes contraints de bouger en permanence. Nous devons changer nos plans et finalement, nous continuons de travailler dans l'urgence. À une époque, nous pensions nous atteler à l'aide au développement, mais nous sommes revenus à la case départ et nous continuons à ne proposer qu'une aide d'urgence au lieu de penser à l'avenir de la Syrie.
Face à des conflits de si haute intensité, face à des conséquences si tragiques pour les populations civiles, est-il possible, Fadi Aldari, de rester neutre, de ne pas politiser son action, même humanitaire ?
Nous le sommes. En tant qu'humanitaires, nous sommes neutres, mais évidemment, lorsque vous voyez que d'un côté, ils ont tout et qu'ils assiègent des villes et des régions, vous ne pouvez pas rester totalement neutre. Vous devez exprimer votre avis et dès que vous avez un avis, vous êtes catalogué et on dit que vous prenez parti. Mais comment être neutre lorsque l'on voit la souffrance, les massacres, lorsque l'on voit les destructions et toutes ces vies perdues? Nous sommes une génération sacrifiée. La Syrie était l'un des pays les plus développés du Moyen-Orient. Nous n'avions pas de dette extérieure. Et d'un coup, le peuple syrien a l'impression qu'il y a tant de pays impliqués aujourd'hui et que chacun de ces pays a ses propres intérêts en Syrie. L'Iran, la Russie, n'importe quel pays, tout le monde a un intérêt. Et le peuple paie le prix fort.
Est-ce que vous comprenez les accusations de Damas qui qualifient certains humanitaires, dont vous, je crois, de menaces de soutien à l'opposition ?
Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que pense le gouvernement syrien. Il pense que nous sommes une menace, que nous soutenons les régions contrôlées par l'opposition, mais c'est simplement parce qu'il y a un besoin dans cette région. Le but, c'est de combler le fossé qui existe en matière de santé et d'aide humanitaire. Nous ne faisons qu'aider des gens qui n'auraient sinon accès à aucune aide humanitaire. Il y a plus de 7 millions de personnes déplacées en Syrie, sans doute même 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. Et ces personnes ont besoin d'aide, quelle qu'elle soit. Si vous regardez les régions contrôlées par le gouvernement, les habitants reçoivent encore leur salaire. Ils continuent d'aller au travail, ils vivent une vie à peu près normale. Mais ceux qui vivent dans les régions soi-disant sous contrôle de l'opposition, ils n'ont aucun moyen de subsistance, ils n'ont aucun salaire. Rien, ils ne peuvent compter que sur l'aide internationale. En tout cas, c'est pour cela que oui, nous pensons que le régime syrien nous considère comme un soutien à l'opposition.
Vous faites partie de la coalition de 20 ONG opérant en Syrie et signataire d'un rapport intitulé « Échec coupable en Syrie ». Quel est cet échec coupable auquel vous faites référence ? C'est celui des grandes puissances, celui des humanitaires eux-mêmes ?
It's not just about blaming, you know, putting the finger somewhere.
Il ne s'agit pas de critiquer ou de pointer du doigt, vous savez. Ce sentiment d'échec coupable, cette culpabilité de l'échec, c'est quelque chose que ressentent les ONG syriennes. Nous ne proposons qu'un soutien à ceux qui fuient loin de chez eux, au lieu de mettre la pression sur la communauté internationale pour mettre un terme à la guerre. L'idée, c'est que nous avons besoin de mettre un terme à ce que l'on appelle la migration interne. Et nous devons arriver à stopper la destruction des infrastructures qui se poursuit sous nos yeux. Mais nous ne pouvons que nous concentrer sur la fourniture de l'aide au lieu de faire quelque chose pour faire cesser tout cela. De plus, nous avons le sentiment que les nations ne font pas leur travail et ne soutiennent pas vraiment le processus de paix dans le pays. Elles ne font pas pression sur le gouvernement syrien. Parce qu'il y a deux parties en présence dans ce conflit, mais l'une des deux a recours à la force brute et démolit tout. Lorsqu'il y a une attaque, ce sont des villes entières qui sont détruites, juste pour que le gouvernement syrien puisse reprendre le contrôle. Nous avons l'impression que le pays part en ruine à la guise de certains hommes politiques.
Qu'attendez-vous d'ailleurs des pourparlers de paix qui devraient se tenir à partir de lundi sous l'égide de l'ONU entre les différentes parties belligérantes ?
Nous sommes optimistes cette fois. Je sais qu'il y a eu des tentatives de pourparlers au cours des dernières années, mais sans succès. Et nous espérons que la résolution sera la bonne, parce que le peuple syrien en a assez de la guerre. Et les humanitaires sont épuisés et sous pression, eux aussi. J'espère que toutes les parties au conflit vont reprendre leurs esprits.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Voilà, Fadi Al-Dairi, fondateur de l'ONG Hand in Hand for Syria, l'une des ONG syriennes à agir sur le terrain. Il était au micro de Clément Salazar. Réaction ici en plateau avec vous, Marc Lavergne, et avec vous, Mégoterzian. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Fadi Al-Dairi sur les discussions à venir?
Non, je ne partage pas que tout ira bien et il y aura un accord politique très prochainement. Je ne pense pas.
Et sur la responsabilité de la communauté internationale dans le désastre humanitaire que décrit Fadi Al-Dairi?
Ça, je suis d'accord avec le président de l'ONG que je connais très bien. Je suis d'accord qu'il y a un échec humanitaire. Je suis d'accord que l'ONU et les autres pays riches de cette planète ne mettent pas suffisamment de pression sur le régime syrien pour protéger les populations civiles et acheminer l'aide humanitaire d'une façon neutre partout en Syrie.
Marc Lavergne?
Oui, effectivement, je pense que la communauté internationale n'a sans doute pas été à la hauteur et surtout a pris beaucoup de temps avant de prendre conscience de la gravité de la situation pour la Syrie. Mais je crois qu'elle n'a pas encore pris conscience de la gravité de la situation pour l'ensemble du Moyen-Orient et même pour nos sociétés. Donc, effectivement, être optimiste, c'est un petit peu difficile dans la mesure où on ne peut aboutir que dans la mesure où le régime syrien trouve un avantage à accepter l'aide humanitaire, à accepter des pourparlers politiques, à faire des concessions. Or, pour l'instant, il semble dans une certaine mesure en position de force, à ses propres yeux. Objectivement, on peut avoir l'impression qu'il ne contrôle que la capitale et qu'il est affaibli et qu'il dépend de ses soutiens extérieurs. En réalité, ce qui compte, c'est le rapport de force sur le terrain. Du coup, les négociations, c'est bien qu'elles se tiennent. C'est toujours bien de se parler et de reconnaître aussi les gens qu'on a en face de soi, mais on est encore loin du compte.
Mais écoutez, Erzian, vous avez dit à l'instant que vous connaissiez Fadi Al-Dairi. Quel lien MSF entretient avec les ONG locales, en l'occurrence avec les ONG syriennes, et dans quelle mesure est-ce qu'elles sont utilisées pour déployer l'aide qui est acheminée depuis l'extérieur?
Nous, on collabore avec plusieurs ONG syriennes, inclus Hand in Hand, depuis au moins 3 ans maintenant. Ils font du travail correct, mais la majorité de ces ONG sont inexpérimentées. Donc, pour organiser des secours à haute échelle est très difficile. Nous, on a 45 ans d'expérience et on a des difficultés à se déployer. Donc, j'estime que ces ONG ont encore plus de difficultés.
Mais c'est quoi la nature exacte de cette collaboration, qu'on comprenne bien? Vous encadrez,
on organise,
vous montez les projets d'acheminement de l'aide avec eux, vous êtes présent directement?
C'est polyvalent. On effectue, par exemple, sur une centaine de structures de santé tenues par les médecins de l'opposition, on les soutient avec des médicaments et du matériel médical. On organise des fois des trainings, des cours théoriques et pratiques pour les jeunes infirmiers et médecins syriens. On a monté ensemble avec une autre ONG syrienne qui s'appelle Union des médecins syriens. Donc on a monté un hôpital au nord de Idlib qui existe toujours, par exemple. On a aussi des équipes MSF déployées sur 3 zones avec 3 hôpitaux qui tournent depuis au moins 3 ans maintenant.
Mégoterzian, encore une question à vous, puis ensuite je passe la parole à Marc Lavergne. Pardon. Dans quelle mesure est-ce que les réponses sécuritaires aux attentats qu'on a connus ici, nous, à Paris, et évidemment toutes les législations antiterroristes qui en ont découlé, ont eu un impact sur votre travail? Est-ce que, par exemple, la vigilance est accentuée quant aux fonds utilisés, quant aux ONG avec lesquelles vous pouvez travailler?
Non,
ça a changé votre travail?
Non, ça n'a pas changé pour le moment. Il n'y a pas d'impact. On a un bureau très important aux États-Unis également pour récolter des fonds. Mes collègues là-bas ainsi qu'à Paris me rapportent qu'il n'y a pas eu d'impact malgré les derniers événements de Paris.
Marc Lavergne, on souligne ici, finalement, d'une certaine manière, l'inefficacité de l'action humanitaire, malgré, évidemment, il faut le souligner, le travail extraordinaire d'un certain nombre d'entre eux, et d'une certaine manière, MSF, dont on a le président aujourd'hui, fait exception dans ce paysage-là. En mai prochain, sera organisé le premier sommet mondial humanitaire à Istanbul. Ça va être l'occasion, je cite, de réfléchir à une meilleure appropriation des enjeux et des capacités humanitaires par les populations frappées de catastrophes naturelles ou de conflits. C'est la première fois qu'on organise un tel événement. On va mettre sur la table l'efficacité et parfois l'inefficacité de ces ONG. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce premier rendez-vous? D'abord, le fait que ce soit un premier rendez-vous, on se dit que c'était peut-être jusque-là, en tout cas, une question taboue. Marc Lavergne.
Oui, alors vous évoquez effectivement cette volonté de coordonner l'action humanitaire, de lui donner des injonctions qui soient collectives. Moi, je suis un peu réticent par rapport à ça parce que je pense que au départ, l'action humanitaire est une entreprise de bénévoles, de spontanés qui émanent des sociétés en cause et non pas quelque chose qui est chapeauté par en haut et qui est mis au service de telle ou telle cause. Hein. On voit le rôle d'OCHA que vous évoquez tout à l'heure, qui est l'Organisation des Nations Unies chargée de coordonner
la réponse
d'une manière plus ou moins coercitive parce que finalement, elle donne des tickets d'entrée ou pas, elle peut ouvrir ou fermer des robinets. Donc tout ça me paraît un petit peu dangereux. Alors le fait de se rencontrer, de discuter et de poser cette question qui est l'interface ou la collaboration entre les grandes ONG internationales, c'est-à-dire du Nord, et puis les petites ONG du Sud, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, il n'y a peut-être pas besoin de faire de grands raouts humanitaires, hein, comme c'est devenu un petit peu la mode. On réunit les gens, les États...
La mode, c'est la première fois, je le disais. Ah, pour le premier sommet de ce type-là.
C'est la première fois. Ouais. Mais il y a des forums humanitaires, il y a des occasions de débat. Mais là, on a l'impression que ce mode opératoire vise à prendre des décisions, finalement, gravées dans le marbre, à partir desquelles on aura...
À commander des rapports, je le disais dans mon introduction aussi, éventuellement.
Oui, c'est ça. Hein. Moi, je crois que la collaboration entre ONG du Nord et du Sud doit se faire d'une manière pragmatique, comme l'exemple qui a été évoqué à l'instant dans votre reportage, et avec Médecins Sans Frontières. Je crois qu'il est difficile pour les ONG du Nord, aujourd'hui, de se défaire de certaines de leurs prérogatives et des moyens financiers qu'elles ont au profit d'ONG du Sud. Moi, ce qui me frappe dans le reportage qu'on a entendu, c'est cette adaptabilité d'un groupe de volontaires d'un pays qui savent s'adapter aux interlocuteurs, finalement, qui connaissent les gens, qui connaissent ces situations, qui sont au plus près du terrain. Mais je constate dans déjà d'autres forums humanitaires que les ONG du Nord, du Sud sont très peu présentes et que finalement, elles sont pas reconnues, elles ne sont pas non plus dotées de moyens. Il y a une sorte à la fois de crispation des ONG du Nord vis-à-vis de ça et puis une volonté de garder des moyens financiers parce que on parle là de sommes considérables.
On va parler de ces moyens financiers donc, dans un instant. Mais effectivement, ça va être l'un des enjeux effectivement de ce sommet-là où ça va être donner une place plus importante, effectivement, aux humanitaires locaux. Ça va être une des questions, probablement, qui sera abordée lors de ce sommet. Vous êtes aussi pessimiste que Marc Lavergne quant à la finalité de cette
réunion. Oui, je partage le pessimisme de Marc. Déjà, je ne comprends pas quel sera l'agenda de cette réunion. Est-ce que les grands ONG et les agences humanitaires des Nations Unies vont être capables d'être autocritiques, parler Ebola, par exemple, et pour moi, l'échec qui a eu lieu aussi en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils vont être capables d'avouer que si aujourd'hui quelques Syriens survivent en zone de l'opposition, c'est grâce au débrouillardisme des petites ONG syriennes et non à cause de la machine humanitaire installée, comme le reportage disait, dans les hôtels de Damas. Donc est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un discours autocritique et tenter de trouver des solutions sur les grandes crises comme la Syrie ou... Est-ce qu'ils vont parler comment mieux répondre lors d'une prochaine épidémie d'Ebola? Moi, j'ai des grands doutes.
Vous avez des grands doutes. Il y a une chose qui frappe en vous entendant, c'est qu'au fond, on a le sentiment que l'action humanitaire, elle n'est pas réformable. Que le système, en l'état actuel des choses, n'est pas capable de se repenser lui-même de l'intérieur. Pourquoi?
Pour moi, il n'y a
Pourquoi
pas...
Pourquoi il y a quand même plein de gens intelligents
il n'y a pas
dans ces structures
de faire des grandes phrases et parler des réformes, etc. Nous, avec 45 ans d'expérience,
on est toujours autocritique et on essaye, après chaque expérience, d'améliorer notre réponse.
Et de dire ce qui n'allait pas.
Oui, on dit...
Donnez-moi un exemple, si vous en avez un.
Pour Ebola, malgré que Médecins Sans Frontières était perçu champion du monde, il y a eu une autocriticisme très sévère sur la qualité des soins qu'on a organisés lors de l'épidémie, sur notre réaction, etc. On était très autocritique, même publiquement.
Marc Lavergne, sur cette capacité ou pas à se repenser, à se reformer de l'intérieur.
Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, et depuis déjà quelques temps, c'est celle de l'autonomie des organisations non gouvernementales, entre guillemets, ou humanitaires, pour la plupart, qui dépendent de financements institutionnels de plus en plus, c'est-à-dire de bailleurs de fonds européens, par exemple, de Bruxelles, ou alors de Genève, ou alors de New York. Et donc, il y a cette dépendance est aussi une dépendance en termes opérationnels, finalement. Parce que ce ne sont plus les organisations non gouvernementales qui choisissent les terrains d'opération et le mode de fonctionnement sur le terrain, ce sont les bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds imposent aussi leurs règles, c'est-à-dire il y a des injonctions de réussite, parce que tous ces contrats ont une conditionnalité finalement, et on s'aperçoit que ces grandes ONG, pour la plupart, et MSF est l'exception qui confirme la règle, très heureusement, sont soumises au diktat des bailleurs de fonds, et aujourd'hui deviennent de simples prestataires de services pour l'essentiel, étant donné que les besoins humanitaires se développent de façon exponentielle, et que l'appel aux donateurs privés est de plus en plus difficile pour ceux qui le tentent, ou qui voudraient le tenter, ou qui l'ont tenté, et que c'est une solution de facilité de s'adresser à des bailleurs institutionnels qui sont le bras séculier de la politique européenne, s'il y en a une, ou de la politique des Nations Unies, avec des agendas et surtout des visions et des objectifs différents de l'humanitaire, c'est-à-dire de soulager la souffrance des populations. La souffrance des populations, finalement, n'est qu'un intermédiaire presque dans un jeu où il s'agit de rehausser du prestige de certaines organisations, de certains États. Et finalement, on a un élément de blocage là assez important, effectivement, mais qui n'est pas sans solution.
Mégoterzian, sur cette concurrence, sur cette compétition, dans cette quête du financement, elle perturbe l'action humanitaire. Ça, vous le voyez évidemment quasiment quotidiennement sur le terrain.
Malheureusement, oui, certaines ONG n'ont pas la liberté financière pour mener des actions d'une façon rapide, efficace et indépendante. Du coup, il y a la compétition auprès des ONG pour pouvoir convaincre le bailleur de fonds pour recevoir les fonds. Et malheureusement, il y a une compétition.
Quoi, vous voulez dire que dans le monde humanitaire, on est plus préoccupé par la recherche d'argent, de fonds publics, privés, que par l'action humanitaire elle-même ?
Malheureusement, oui, certaines organisations obligées passent beaucoup de temps pour négocier, faire le rapport, etc., financier pour recevoir des fonds, souvent tardivement, pour répondre à une urgence. Heureusement, Médecins Sans Frontières, depuis plusieurs années maintenant, on a la liberté d'agir grâce à nos donateurs, à savoir que 94% de nos fonds sont des fonds privés.
Oui, mais ça, évidemment, c'est exceptionnel dans le monde des ONG, dans le monde humanitaire. Tout le monde, toutes les ONG ne peuvent pas être dans votre situation avec cette liberté qui est donnée grâce au fait qu'effectivement, il y a une certaine indépendance financière.
Oui, nous, on arrive
C'est une poignée d'ONG.
On arrive à agir grâce à notre notoriété et grâce à nos donateurs privés. Après, j'accepte que, en Syrie par exemple, notre organisation n'est pas à la hauteur des besoins. Avoir 2 ou 3 hôpitaux, ça ne veut pas dire qu'on couvre les besoins sanitaires des populations syriennes en zone de l'opposition.
Mais en même temps, on ne peut pas arriver à la situation qui serait complètement folle de dire aux États, aux bailleurs de fonds, arrêtez de nous donner de l'argent. On ne va mettre en place que des ONG qui sont indépendantes financièrement en appelant à des fonds privés. Il faut organiser l'action pour qu'on puisse bénéficier cet argent qui nous vient de Bruxelles, de Genève ou encore de New York et agir ensuite sur le terrain. Alors comment est-ce qu'on fait ?
Moi je crois qu'il faut pas...
On répartit différemment les fonds ?
Il faudrait savoir si ceux qui dépendent entièrement de fonds institutionnels ont essayé d'intéresser le public à leur action. Est-ce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'utiliser d'une façon efficace, rationnelle, l'argent qui leur serait donné par des donateurs privés ? Jusqu'à présent, quand j'entends des critiques comme ça en disant « bon, on ne va pas s'adresser aux privés parce que finalement, les fonds sont épuisés, on va dire, dans le public », eh bien, j'aimerais qu'on me le prouve. Ça n'est pas le cas jusqu'à présent. Après, la liberté, elle se négocie, c'est-à-dire que s'il y avait un front commun des organisations humanitaire face aux États, face aux pouvoirs institutionnels ou internationaux, eh bien peut-être que les choses seraient différentes. Mais il n'y a pas ce front. Il y a finalement une défense de chacun ou par chacun de son pré carré.
Qu'est-ce qu'elles ont prouvé, vous posiez la question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre en place un système d'évaluation, de mesure de l'action humanitaire de telle ou telle ONG ? Et quel outil ça pourrait être, Marc Lavergne ?
Non, mais je crois que beaucoup de
gens oui,
se satisfont de cette situation. Si vous prenez les organisations américaines qui dépendent du USAID, par exemple, elles sont tout à fait satisfaites. Elles défendent l'intérêt des États-Unis et peut-être aussi du contribuable américain en faisant les choses de la manière dont elles le font. Il y a beaucoup d'ONG confessionnelles aussi qui ont des fonds confessionnels, chrétiens, islamiques, et qui sont tout à fait en accord avec elles-mêmes en faisant ce qu'elles font. Maintenant, la question de l'efficacité est différente. Après, c'est une question de retour d'image, de retour l'efficacité. De toute façon, dans le cas de la Syrie, avec l'immensité du drame humain qui se joue là-bas, personne ne peut répondre à ses besoins, quand bien même toutes les portes seraient ouvertes, je pense. Il y a une dimension qui est importante dans l'aide humanitaire, c'est celle de témoignage. Cette aide, non pas de plaidoyer, mais simplement de dire on est là, on est avec vous, on vous aide dans la mesure où on le peut. Et ça, c'est aussi important. Je ne pense pas que l'humanitaire ait eu jamais l'espoir d'éradiquer la misère et la souffrance de la planète.
Mégo Terzian, sur ce besoin ou pas de mettre en place des systèmes de contrôle, d'évaluation, de mesure de l'action humanitaire, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ?
Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit sur les autres organisations ou le fonctionnement des autres. En ce qui concerne Médecins sans frontières, on fait systématiquement lors des grandes interventions une évaluation de notre réponse. On apprend des leçons, on essaye d'améliorer nos futures interventions. J'espère que les autres organisations feront pareil. C'est que l'autocriticisme et se mettre en question en permanence qui améliore les opérations de ce
groupe. Mais c'est un processus, vous, chez MSF, que vous avez automatisé dans une certaine manière. C'est à chaque fois que vous agissez sur un terrain, vous faites le bilan
oui,
de son efficacité.
C'est systématique. On a une unité d'évaluation qui dépend du conseil d'administration de Médecins sans frontières, pas de l'exécutif, donc qui fait systématiquement des évaluations lors des épidémies comme Ebola ou rougeole, République démocratique de Congo, qui fait l'évaluation par exemple de notre intervention en Syrie. Est-ce que c'est bien de donner aveuglément entre guillemets des médicaments à une centaine de structures ou pas ?
Mais c'est loin d'être la règle, c'est ça que vous nous dites. Dans le monde de l'humanitaire, c'est loin d'être la règle.
J'espère que les autres organisations font pareil.
Vous savez s'ils le font ou pas.
Je ne connais pas le fonctionnement des autres organisations, mais j'espère que des forums comme la conférence humanitaire qui aura lieu à Istanbul sera un lieu où les organisations parleront honnêtement de leurs échecs et quelles conduites à tenir pour éviter des futurs échecs. Donc j'espère qu'on parlera de ça.
Vous y serez, vous, à Istanbul ?
On n'a pas encore décidé si MSF sera représenté ou pas.
Ça dépend de quoi ?
Ça dépend du contenu de l'agenda de cette conférence. On n'a pas les détails de quoi on va parler.
Marc Lavergne, vous vouliez réagir ?
Oui, il me semble effectivement que il est important de mesurer le rapport entre le coût et l'efficacité de l'aide, mais c'est très difficile parce qu'on peut le faire à un temps T. Mais si vous voulez, si vous avez un contrat de 6 mois avec ECHO, c'est-à-dire l'organisation européenne qui soutient l'aide humanitaire, eh bien, au bout de 6 mois, que restera-t-il de votre action? Si vous avez donné à manger aux gens pendant 6 mois et que vous partez, quel est le bilan que vous pouvez tirer de ça? Alors, moi, je...
Vous pensez à quelque chose en particulier, là? On parlait tout à l'heure du Darfour, très rapidement. Est-ce que, par exemple, le Darfour pourrait rentrer dans ce type de situation?
C'est un cas exemplaire, puisque c'est une crise qui a démarré en 2003, qui a été signalée plutôt vers 2004, et qui dure aujourd'hui sans que aucune personne ne soit rentrée chez elle. Sur 2,5 millions de déplacés aujourd'hui, plus quelques centaines de milliers au Tchad, personne n'a réintégré ses foyers. Donc, les gens du Darfour, quand on les voyait dans les camps, à l'époque où ils étaient encore accessibles, eh bien, vous disiez, vous êtes gentils de nous donner à manger, de nous donner un abri, de nous apporter des médecins. Mais ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. C'est-à-dire, vous ne résolvez pas le problème. Et c'était bien le problème du mandat des Nations Unies. C'était, aller, finalement, l'aide humanitaire au Darfour a été un ersatz de l'action politique. Bien que il y ait eu 8000 journalistes qui se soient succédés au Darfour, une crise soi-disant oubliée, et puis des hommes politiques de tous les pays du monde et de premier plan, eh bien rien n'a changé, rien n'a bougé. Et aujourd'hui encore, l'an dernier, il y a eu 400 000 déplacés supplémentaires sans une ligne dans les journaux, sans une émission de radio ou de télévision. Et cette année, on est allé, enfin en 2014, c'était plus de 400 000. En 2015, c'était encore 250 000. Et les bombardements continuent, les exactions continuent. Donc le Darfour est une crise oubliée. C'est un peu le problème de cette nécessité d'avoir accès. Je dirais, mais il y a des crises qui sont vendables et il y en a qui ne le sont pas. Voilà, ça c'est un autre aspect choquant et peut-être un défaut de l'aide humanitaire dans la mesure où il faut des financements qui sont affectés à telle ou telle crise.
Si vous êtes quand on regarde le bilan sur le Darfour, 300 000 morts, 2,5 millions de déplacés, une bonne partie d'ailleurs dans le Tchad voisin, il n'y a pas assez de misère, c'est pas assez vendable.
Ah ben, la question, c'est évidemment pas moi qui peux y répondre, ça n'est pas un conflit stratégique, c'est un conflit qui se passe sans avoir aucune incidence sur l'équilibre géostratégique de la planète, ni même sur les conflits locaux qui sont plus centrés aujourd'hui sur Boko Haram, sur d'autres régions du Sahel, que le Darfour, qui est un angle mort, si vous voulez, et il y en a d'autres, bien entendu. Donc chaque crise a des degrés de de commercialisation possible sur le marché, à commencer par les catastrophes naturelles qui posent pas vraiment de problème de financement, même si quand on dit naturel, on évacue l'aspect manque de développement, corruption, etc., qui font que ces crises sont dramatiques. Et puis après, les crises politiques sont beaucoup plus difficiles à vendre et les conflits encore plus.
Mais Gauthier-Zian, un mot sur ça?
Oui, les crises médiatisées aujourd'hui, c'est clairement, c'est pas le Darfour, c'est pas le Sud Kordofan où il y a aucune ONG en zone de l'opposition qui opère à part Médecins Sans Frontières. Donc malheureusement, oui, c'est la réalité quand une crise n'est pas médiatisée, donc il n'y a pas suffisamment de bailleurs de fonds qui aident des ONG pour mener des opérations.
Tout dernier mot, au début du mois d'octobre, à Kunduz, en Afghanistan, les forces armées américaines ont bombardé l'hôpital de Médecins Sans Frontières. 22 morts, dont 9 employés de MSF.
Nous avons appris que le 3 octobre, les forces afghanes ont fait savoir qu'elles attaquaient des positions ennemies et ont demandé un soutien aérien aux forces américaines. Une frappe aérienne a été décidée afin d'éliminer la menace talibane et plusieurs civils ont été accidentellement touchés. C'est une version différente des premiers rapports qui indiquaient que les forces des États-Unis étaient menacées et avaient demandé cette frappe.
Nous ne pouvons pas nous reposer sur une enquête militaire interne menée par les États-Unis, l'OTAN et les forces afghanes. Aujourd'hui, nous réclamons une enquête sur l'attaque de Kunduz menée par une commission humanitaire internationale.
Voilà, on entendait le général américain Campbell et puis Joanne Liu, présidente internationale de MSF. Le 7 octobre 2015, elle avait demandé une enquête indépendante sur le bombardement de cet hôpital à Kunduz. Vous aviez, Gauthier-Zian, dit à l'époque qu'il était difficile de croire à la thèse de la bourde. Où en est l'enquête aujourd'hui?
Donc l'enquête demandée par Médecins Sans Frontières auprès de cette instance qui s'appelle Fact-Finding Commission, il n'y a pas eu une suite parce que les deux États concernés, afghans et américains, doivent donner leur aval et ils n'ont pas donné leur aval.
Donc l'enquête est au point mort, il n'y aura pas d'enquête.
Nous, on continue toujours à demander, mais on sait aussi que, comme je disais tout à l'heure, la loi est avec l'effort, même s'il y en a des règles. Les règles sont avec l'effort, c'est ça la réalité.
Et la critique, Gauthier-Zian, en tout cas l'hypothèse avancées par certains selon lesquelles l'hôpital abritait des forces talibanes.
Donc nous, mes collègues me disent que non, il n'y avait pas des combattants talibans dans l'enceinte de l'hôpital. Certes, il y avait des patients, des blessés, inclus des blessés talibans. Nous, on est médecins, donc on a l'obligation morale de soigner tout le monde. Toute personne criminelle, terroriste, personne ordinaire, il est blessé, il est patient, il doit être soigné dans l'hôpital.
Et vous allez continuer à le faire en Afghanistan ?
Donc on est en dialogue toujours avec les autorités américaines et afghanes pour savoir est-ce qu'on est autorisé de travailler partout en Afghanistan, est-ce qu'on est autorisé de soigner tout le monde, inclus les talibans.
Et où en est le dialogue ?
Pour le moment, on continue à dialoguer, on n'a pas des affirmations claires des autorités afghanes notamment qu'on peut soigner tout le monde.
Merci beaucoup à l'un et à l'autre d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir ouvert cette semaine qu'on va consacrer à l'action humanitaire. Mégo Terzian, président de Médecins Sans Frontières, un grand merci d'avoir ouvert cette série. Et également vous, Marc Laverne, je rappelle, directeur de recherche au CNRS, géopolitologue. Que dire ? Peut-être que nous avons d'abord un nouveau site internet sur lequel on pourra réécouter cette émission en particulier.